Radio Coteau, la radio de tous les coteaux. Gascogne, Magnoac, Comminges et Ariège. 97.7, 104.5, www.radiocoteau.com.
Nous sommes heureux de vous retrouver donc en direct sur les ondes de Radio Coteau. Je suis en compagnie de mon amie Lina. Bonjour Lina.
Bonjour Patrick.
Comment ça va?
Je suis ravie d'être avec toi.
Et moi c'est toujours une joie de t'accueillir. Et tu es avec moi pour accueillir dans le studio Aude qui représente l'Union juive française pour la paix. Bonjour Aude.
Bonjour.
Et Jean-Pierre et Patrick qui eux représentent le groupe Comminges Palestine Solidarité. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et donc bienvenue sur Radio Coteau. Et tout, vous faites partie d'un collectif, c'est ça Aude?
Voilà, nous faisons partie d'un collectif de 18 organisations sur Saint-Gaudens.
Et alors Lina, on a convié ces personnes aujourd'hui pour parler bien évidemment de l'actualité, mais aussi peut-être faire un retour en arrière sur l'historique de cette situation palestinienne.
Ouais. Et pourquoi ne pas parler du Liban aussi,
et du Liban,
mon pays natal, puisqu'il est toujours d'actualité. Voilà, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits ces derniers jours, ces derniers mois, soit au Liban, soit dans le Moyen-Orient en général. Donc voilà, on va parler de tout ça et... je commence ladies first par Aude. Aude, vous avez eu l'opportunité de visiter la bande de Gaza et la Cisjordanie. Ça fait un moment maintenant, et vous avez pu ressentir, bien sûr, et vécu beaucoup de choses sur le champ avec les Palestiniens. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez pu vivre là-bas, et quand ces visites ont-elles eu lieu, et combien de temps y étiez-vous?
Alors, visiter, c'est pas tout à fait le terme que j'aurais choisi, puisque nous y allions avec mon compagnon en tant que militant. Nous faisions partie à l'époque des coordinateurs des missions civiles Palestine, CCIPPP, qui organisaient des missions donc en Palestine, et nous y allions rencontrer notamment nos contacts, et également et surtout à l'invitation des Palestiniens, pour participer à leur lutte, pour écouter ce qu'ils avaient à dire et avec un engagement à témoigner au retour. Ce qui était vraiment fortement demandé par le peuple palestinien, c'est qu'on parle de leur situation dans les autres pays. Et donc, c'est à ce titre que nous y allions. Nous y sommes allés donc 6 fois en Cisjordanie, 1 fois à Gaza. À Gaza, en 2005, c'était juste avant le retrait des colons. Voilà, et nous y avions été accueillis par Ziad Medouk, professeur de français à Gaza, à l'université de Gaza.
C'est lui qui vous a invité?
C'est lui qui nous avait invités, c'est lui qui nous a accompagnés et nous a servi de traducteur tout du long.
D'accord. Et j'ai envie de savoir comment les peuples palestiniens vivaient à l'époque. C'était bien avant le 7 octobre, bien sûr. À quels défis ils ont été confrontés à ce moment-là?
Alors, en Cisjordanie, nous sommes polarisés, je dirais, sur les villages qui étaient... à l'époque visé par la construction du mur, et donc qui faisait notamment des actions non violentes, des manifestations tous les vendredis pour protester contre le vol des terres par le mur, puisque le mur ne suivait pas du tout ce qu'on appelle la ligne verte. Donc nous sommes allés notamment au village de Bilaïn, donc dans ce village de personnes qui manifestaient tous les vendredis, qui étaient évidemment ulcérés par le vol de leurs terres. C'était 40% de leur village. Faut savoir que les Palestiniens, les Cisjordaniens, mais à Gaza aussi, c'est en grande partie, pratiquement toute la population, ce sont des agriculteurs. À Gaza, des pêcheurs également. Et donc, le vol des terres, c'est leur gagne-pain, mais c'est aussi symbolique, évidemment, par rapport aux terres qu'on leur a déjà volées en 48. Ouais. Et la continuation de ça. Et donc, dans ces villages, il était fait appel aux internationaux et aux anticolonialistes israéliens.
Ouais.
Donc, nous manifestions main dans la main, si j'ose dire, face à l'armée israélienne qui ne se privait pas de tirer sur des manifestants non violents.
Une question, le mouvement anticolonialiste israélien, ils étaient nombreux, enfin, ils avaient une certaine...
Non. Le mouvement anticolonialiste israélien n'était pas nombreux, n'est toujours pas nombreux, d'autant plus que certains se sont un petit peu fatigués, si on peut dire, en tout cas mentalement, ils sont partis parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Ceci étant, en discutant avec eux, on est arrivé à la conclusion que c'était à peu près la même proportion qu'en France lors de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire très peu.
Ouais. Je vais rebondir à ça après, peut-être, mais je ne sais pas si on peut rappeler les auditeurs, les auditrices. Oui, c'est important, bien sûr, de les rappeler sur l'actualité. À ce moment-là, c'était bien avant le 7 octobre. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Parce que la plupart des gens disent maintenant que ça a commencé le 7 octobre. C'est pas du tout... c'était peut-être le dernier clou dans
ça.
Le...
Ou l'avant-dernier.
Tout à fait. Est-ce que vous avez rencontré des gens dans la rue, des peut-être des commerçants, des étudiants, quand vous y êtes allé?
Oui, moi j'ai été en compagnie de mon épouse, puisque notre fille travaillait en Naplouse pour le consulat. Donc on y a été deux fois. Pendant un mois, chaque fois. Et au moment de la deuxième intifada, en 2000-2001, et on a parcouru un petit peu Naplouse, donc il y avait déjà énormément de destruction. Toute la vieille ville avait déjà été détruite.
C'était en 2000-2001. Oui.
Voilà, on a fait Noël 2000. Mm-hmm. À Naplouse.
Excusez-moi de vous poser la question, Patrick. Vous aviez déjà conscience de cette situation? Vous avez pris conscience une fois là-bas?
Oui, parce que déjà notre fille était partie depuis quelques années, donc on était au courant quand même de ce qui se passait et des difficultés que les gens avaient rencontrées au quotidien. Donc au quotidien, c'est extrêmement difficile de se déplacer pour aller d'un endroit à un autre.
À cause de checkpoints
Des routes qui... ils ont passé... Les Israéliens ont passé toutes les routes au bulldozer. Donc, il restait des pistes.
Ouais.
Et pour se déplacer d'un village à l'autre, c'était les pistes.
Ouais.
Sur lesquelles circulaient quelques voitures. Mais pour empêcher aussi les voitures de circuler, il y avait des levées de terre qui permettaient ou qui empêchaient les véhicules de passer. Et donc, c'était à pied.
Ouais. Et on peut imaginer la difficulté pour les enfants, pour aller à l'école.
Bien sûr. Et tous les déplacements se faisaient à pied. Après, il y avait dans certains secteurs, on pouvait se déplacer en voiture, en taxi ou choses comme ça. Mais sinon, tous les déplacements dans les secteurs où on était, c'était à pied.
Ouais.
Donc on a été à Naplouse, on avait vu toutes les destructions. Ils ont détruit toute la vieille ville. Après, j'ai les photos avec moi, là.
Ouais, je vois, vous avez les photos sur le...
Ça me permet de garder un petit peu
le
fil des choses. La nuit, les chars passaient dans Naplouse et détruisaient tous les ronds-points. Ils montaient avec les chars, les chenilles, donc c'était tout détruit. Donc, l'école où était ma fille, il y avait quand même un joli trou dans le mur.
Ouais.
Donc, c'était quand même en 2000. Hein. Donc... ça permet quand même de replacer les choses un peu dans un contexte long et sans remonter vraiment en 48. Je pense que déjà en 2000, c'était la deuxième intifada et il y avait déjà eu pas mal de destruction.
Ouais.
On peut rappeler, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne savent pas ce que ça veut dire intifada.
C'est la guerre des pierres.
Oui.
La révolte.
Ouais.
C'est la révolte des pierres.
Ouais.
Parce que finalement, ils n'avaient que ça...
comme projectile.
Oui, comme projectile. Et je me souviens, on est allé dans le camp de Balata, donc on en a plus. Il y a un tout petit gamin, il nous a dit, tu vois, avec mes baskets de 10 euros, je suis monté sur un chat de 10 millions d'euros.
Ah ouais. Ouais.
Pour... Et donc après, bon, on a circulé, on a été à Ramallah, au moment où ils détruisaient la Moukata. Mmh. Donc la Moukata, c'était l'endroit où était Yasser Arafat.
Ouais. Le gouvernement ou l'autorité palestinienne.
L'autorité palestinienne,
officielle.
Oui. Ouais. Ensuite, on a été à Jenin. Mmh. Donc là, ils avaient détruit le camp complètement. Il y avait des victimes en pagaille. Il y avait 68 tombes au cimetière. Mmh. Il y avait destruction d'ambulances, de véhicules, donc tout ce qu'on voit maintenant, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, ça existait déjà.
D'accord.
Alors, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, je me place en tant qu'animateur de radio associative ici dans le Comminges. Ce sont des témoignages qui sont essentiels.
Oui, parce que bon, quand on dit la guerre
a commencé.
La guerre a commencé le 7 octobre, c'est pas tout à fait ça.
Alors,
pour compléter ce que dit Patrick, qui a dit qu'il n'était pas remonté jusqu'en 48, moi je suis remonté en 48 à Gaza, puisque Gaza c'est en grande majorité des réfugiés de 48, et en allant discuter avec les gens dans les camps de réfugiés, c'est-à-dire pratiquement tout Gaza, évidemment on remonte en 48, parce qu'il y a la clé de la maison, il y a les souvenirs, et il y a encore des survivants de la Nakba, des gens qui ont été chassés de leur village, et qui se sont réfugiés, pour ceux que j'ai vus à Gaza. Donc des vieilles personnes qui avaient subi cela enfant. Et là, effectivement, pour eux, si on leur dit encore maintenant, tout a commencé le 7 octobre, bon, ils vivent avec ça depuis 48. Des personnes qui avaient vécu bien avant 48, en bonne compagnie avec les Juifs qui vivaient à l'époque en Palestine, et donc qui ne pouvaient pas oublier ce moment-là. Et puis, si je me permets, une petite anecdote par rapport aux exactions de l'armée israélienne. Donc, notre village d'adoption, c'était Bilaïn, où nous allions chaque année.
Et nous avons fait Bilaïn, c'est situé où, à Gaza?
Non, Bilaïn est en Cisjordanie, à l'ouest de Ramallah. C'est un petit village. Et nous y avons été accueillis, nous y avions nos deuxièmes familles et des amis. Et en 2007, nous avions fait connaissance d'un jeune de Bilaïn, Bassem. Et nous avions été invités en tant que témoins impartiaux à une grande soirée où tout le village était là pour discuter d'une grande question. Est-ce que Bassem devait se marier avec sa copine qui était juive, anticolonialiste? D'accord. Et donc tout le monde s'était trippé, mais non, c'est quand même une juive. Mais oui, mais elle est de notre côté, etc., etc. Donc, nous sommes revenus en 2009, nous avons retrouvé Bassem et nous avons participé à la manifestation non violente. Hein, donc, même pas de pierre, si ce n'est les enfants que les adultes essayaient de calmer. Bassem était connu par l'armée israélienne et il savait très bien qu'il avait le projet de se dépouser une juive. Il s'est avancé parce qu'il y avait des chèvres et il s'est adressé aux soldats en leur disant « Ne tirez pas sur les chèvres ». Elles appartiennent à une vieille dame là-bas. Et il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase, il a été abattu. Pas par hasard, c'est parce que c'était Bassem, parce qu'il voulait épouser une juive, et il a été donc abattu par l'armée israélienne.
Mm-hmm. Il le connaissait.
Oui. Ouais. Oui. Les soldats étaient très proches des villageois. Hein. C'est un grillage séparé, même pas, puisque... Les manifestations, c'est pas les manifestations comme à Paris ou à Toulouse, hein, c'est pas dans des rues, c'est dans les collines. Mmh. Donc on est éparpillés, et on se mêle soldats, manifestants. Et oui, tout le monde était connu.
Donc c'est ça le quotidien des Palestiniens de tous les jours, malheureusement, depuis 1948, 1976, après ça, et il faut le répéter, il faut le rappeler à tout moment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de relayer toutes ces informations sur les réseaux sociaux, les médias classiques.
Oui, même quand nous on est rentrés de Palestine, on a fait des expos ou des choses comme ça. On a témoigné, parce que c'est quand même ce que les Palestiniens nous demandaient. Ils nous demandaient, venez nous voir et témoignez de ce que vous avez vu. Mm-hmm. C'était ça.
Parce que c'est important pour eux qu'un Français, qu'un Anglais, qu'une personne qui vient de l'Occident, entre guillemets, témoigne de leur tragédie, de leur drame, de la Nakba. Jean-Pierre Lasserre, pourquoi et comment on en est arrivé là, à votre avis?
Ben on traduit souvent par l'expression « cocotte minute ». C'est devenu une cocotte minute.
Le 7 octobre
Le 7 octobre, c'est l'explosion, quoi. C'est une des explosions. Mais enfin, c'était prévisible plus ou moins, parce que toutes ces circonstances successives là, qu'on vient de compter... Elle s'avère être, c'est un peu un des aboutissements, disons. Voilà. Donc c'est pas une surprise. On a fait une surprise. Bon, enfin, ça a été fomenté, ça a été la mécanique était bien huilée pour arriver à ce type de riposte d'événements. Donc je pense que c'est tout ça qui a contribué, quoi. Plus cette situation était intenable, quoi. Pour n'importe quel peuple, ça serait soulevé, quoi. C'est inimaginable.
Alors, on parle depuis 1948. Est-ce qu'il y a eu des moments, je suis utopique, il y a eu des moments plus calmes, des moments où il y a d'espoir ou pas du tout?
Il y a eu un espoir très vite déçu. Enfin, deux espoirs. L'espoir des accords d'Oslo. Mais je pense que les Palestiniens n'ont pas été dupes très longtemps.
1993.
Voilà. Ouais. Bon, ils ont vu très rapidement déjà germer ce projet de mur et ils ont compris que c'était un marché de dupes et que ça allait accélérer l'occupation et la colonisation. Du côté de Gaza, il y a eu l'espoir de 2005. On a eu de grandes discussions à ce moment-là puisque les colons allaient se retirer. Et Gaza fêtait cela. Enfin, les Gazaouis fêtaient.
Après l'élection du Hamas?
Non, avant.
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 Les élections, c'était en 2006.
Voilà. Et donc les Gazaouis fêtaient le retrait des colons. Et nous, on leur a demandé, mais vous n'êtes pas inquiets parce que la zone va être libre d'Israéliens. Donc Israël peut faire ce qu'elle veut. Et ça n'a pas tardé. Effectivement, il y a eu élection du Hamas, il y a eu blocus, il y a eu bombardement, parce que les bombardements actuels sont hors de toute proportion imaginable. Un génocide, je crois que c'est un peu reconnu par tout le monde à peu près. Mais il y a eu des bombardements avant également et qui ont fait des morts, qui ont fait autant que le 7 octobre. Je n'excuse pas le 7 octobre. Nos pronostics ont été...
Dans ma question, je pensais à l'époque de Yasser Arafat. Il y a eu un accord, il y avait eu une rencontre avec Begin, non, le président. C'était Rabin. Pas une période d'espoir, ça. Pas vraiment. Enfin, ça avait été présenté comme ça, en fait, au grand public. Au grand public,
oui. Mais après, je crois que dans la réalité, les Palestiniens n'étaient pas dupes de ce qui se passait quand même. Puisque, au fur et à mesure, la colonisation s'accentuait. Et c'est chaque fois, les Palestiniens perdaient leurs terres, perdaient leurs champs d'oliviers. Et les colonies, on les voyait sur les collines, elles grandissaient. Donc si vous reveniez un an ou deux après, la colonie, elle s'était étendue énormément. Donc je crois que même du temps de Yasser Arafat, ils n'étaient pas quand même très très sereins. Quant à leur avenir, ils souhaitaient avoir effectivement un peuple. Mais là, je crois que petit à petit, les illusions... sont perdus.
La société palestinienne est très très éduquée déjà, il faut le savoir, et très très politisée. et les débats font rage entre personnes qui ne sont pas du même avis.
Ah oui.
Dans la même famille, on peut avoir des membres du Hamas, des membres du Fatah, des membres du FPLP, etc. Et ça, voilà, ça discute. Et ils ont un avantage, ils n'écoutent pas ou très peu les médias occidentaux. Ce qui leur interdit un petit peu l'espoir.
Oui, ils vivent au quotidien.
Qu'on nous vend.
Oui. Ouais. Et alors, toutes ces discussions, ces échanges, vous les avez évoqués avec monsieur le sous-préfet
oui.
le 27
oui.
décembre.
C'est ça.
Et voilà, vous leur avez expliqué toute la situation, oui. ce qui se passait, ce qui se passe toujours à Gaza. Comment il a été réagi?
Il a pris beaucoup de notes.
D'accord.
Et après, bon, donc on lui a expliqué quand même, on l'a présenté, notre groupe, on a fait état un petit peu de la justice internationale, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont survenues et qui, bon, méritaient d'être relatées devant le sous-préfet.
La décision de la Cour pénale internationale,
oui,
c'est ça? D'accord.
La décision de la CIJ, les rapports qui ont été faits par les organisations humanitaires, Amnesty International a fait un rapport qui est très documenté, qui est
très fort. Hein,
voilà.
Oui.
Donc, qui s'intitule « On est des sous-humains » ou quelque chose comme
et
ça.
Et ils ont appelé ce qui se passe à Gaza un génocide.
Voilà.
D'accord.
Oui, oui. Après, il y a la rapporteure des droits de l'homme au sein de l'ONU, Francesca Albanese, qui a fait des rapports, notamment sur l'apartheid, parce que bon, il y a cette notion d'apartheid qu'il ne faut pas perdre de vue. Un Palestinien, il n'existe pas sans passer toute sa vie par Israël. C'est-à-dire, vous demandez des papiers, il faut, même pour changer de carte d'identité ou de choses comme ça, tous les documents sont soumis à l'autorisation israélienne.
Ouais.
Il n'y a rien qui peut se faire. Vous n'avez pas l'eau, un approvisionnement d'eau dans le village où on était, à Djelboun, au-dessus de Djenin. C'est des compagnies israéliennes qui livrent de l'eau. Donc c'est ces grandes citernes noires qu'on voit sur les bâtiments. Lorsque les soldats ils tirent dans les réserves d'eau, il n'y a plus d'eau. C'est, donc toute la vie d'un Palestinien est liée à la domination des Israéliens.
Ouais.
Et ça, au niveau du droit, Francesca Albanese, elle a fait des rapports très documentés par rapport justement à cet apartheid qui fait que bon, les Palestiniens sont traités vraiment comme des sous-hommes.
Ouais.
Bon, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit.
Des animaux, même. Ils
c'est
ont
ce qui
dit,
a été
oui,
dit à
hommes
au moment de
politique.
Gaza.
Ouais.
Voilà. Donc, ça, on a évoqué ça au sous-préfet. On en a parlé. Après, bon, du bilan humain, des choses comme ça. De la destruction des sites, de tous les sites culturels, écoles. Bon. À Gaza, ils ont quand même bombardé des cimetières.
Les hôpitaux, les établissements scolaires.
Au prétexte qu'il y a peut-être des tunnels dans les cimetières.
Ouais.
Bon. Quand on a été en Palestine, donc déjà en 2000-2001, on a été à Jéricho. Il y a des richesses archéologiques énormes.
Ouais.
Les Israéliens ont pris ce qu'il y avait, ils les ont mis dans un musée, dans le musée Rockefeller, en Israël.
Et ils ont bombardé
Non, ils ont volé,
d'accord.
Ils ont pillé les richesses
d'accord.
archéologiques
palestiniennes. D'accord.
Et tout ça, ils l'ont mis chez eux. Et puis voilà. Et ils disent après, bon, ça c'est à nous, ça c'est notre histoire, c'est nos richesses à nous, parce que c'est ça. Hein. Lorsque l'on parle avec un Israélien, lui, il tient sa terre de Dieu. Donc, tout ce qui est le moindre caillou, c'est Dieu qui l'a donné à l'israélien, pas aux palestiniens, à l'israélien.
C'est tous les Israéliens ou les ceux qui sont plutôt, comment dire, intégristes?
Non, c'est pas tous les Israéliens.
Non,
pas,
c'est que 90%.
Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Non, parce que moi, dans mon idée, je pensais que c'était ce mouvement de comment on appelle, intégriste, de juifs intégristes, ouais, qui pensait ça, mais pas la population générale.
Non. Alors déjà, au niveau des religieux, il y a intégristes et intégristes. Il y a des, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des juifs, des religieux qui sont de religion juive, qui habitent en Israël et qui sont antisionistes. Mm-hmm. Ouais. Qui pensent qu'il faut attendre l'arrivée du Messie pour... voilà. Parmi la population israélienne... au départ, sionisme, ça rime pas avec religion. D'ailleurs, les premiers étaient plutôt des athées. Et Yael Sivan, réalisateur de films, qui est venu récemment chez nous, a réutilisé la formule « Dieu n'existe pas, mais il nous a donné la terre ». Ça résume splendidement la situation. Et je pense que oui, l'utilisation de la religion est une une instrumentalisation pour un certain nombre des Israéliens, mis à part ceux qui croient vraiment, mais il y a une partie de la population qui ne croit pas réellement. Mais bon, la Bible est utilisée comme un cadastre, en fait.
Et je trouve qu'on a vraiment besoin de toutes ces informations. Je pose des questions comme ça, mais on a besoin de réponses, en fait, de comprendre.
Et parmi les actions qu'on a justement menées sur Saint-Gaudens...
Jean-Pierre, avancez-vous vers le micro, s'il vous plaît. Merci, Jean-Pierre.
Les informations qu'on a... Enfin, parmi les, disons, les actions qu'on a menées sur Saint-Gaudens, on a eu la projection d'un certain nombre de films, hein, avec souvent les réalisateurs. Et ça a été... il y avait un bon public, comme à chaque fois.
Oui.
Et ça, on va d'ailleurs poursuivre ce type d'action. Enfin, il faut le signaler aussi. Il faut le signaler, il y a ça. Il y a nos rencontres hebdomadaires devant la sous-préfecture depuis la 64e, je crois. Là. Donc on est très...
Depuis novembre 2023.
Voilà. Les vigies.
On est fidèles.
Oui.
Aux...
Les vigies. Ouais. On en avait parlé la dernière fois, Lina.
La vigie. Avec
nos invités.
Tout à fait. Ouais.
J'en profite, je fais une petite parenthèse. On a employé deux ou trois fois le mot génocide. Alors je voudrais vous présenter une BD qui sort chez Actes Sud de l'auteur Mazen Karbaj, qui s'appelle tout simplement Gaza. Et en fait, il témoigne à travers des dessins qu'il fait lui-même, des textes qu'il reçoit de gens à Gaza. Mmh. Il y en a un qui m'a touché. Le monde libre nous dit que le mot génocide est inapproprié, idem pour nettoyage ethnique. Vous êtes libre d'utiliser les termes tuerie de masse, bain de sang, massacre, carnage, boucherie, hécatombe, tuerie, décimation.
Ouais.
Voilà.
Très bien.
C'est un recueil, hein, c'est pas vraiment une BD, hein, c'est un recueil de textes qu'il a reçus de gens de Gaza et qu'il a lui-même donc dessiné. Et ça sort chez Actes Sud et ça s'appelle Gaza.
Ouais.
Est-ce que vous voyez maintenant? C'est sous-titré.
Voilà. D'accord.
Il est libanais, hein, l'écrivain libanais qui habite à Berlin, je pense.
Ah oui. Ouais. Oui, oui, il est.
Ouais. Alors, pour revenir à votre rencontre avec le sous-préfet, pourquoi on a l'impression que les élus, les dirigeants, les responsables en France font la sourde oreille face à toutes ces mobilisations, toutes ces manifestations, toute cette colère, soit ici en France, soit en Europe, les voix qui sont en solidarité avec le peuple palestinien?
La personne, quand on a rencontré le sous-préfet, je lui ai posé la question.
Mm-hmm.
Je lui ai dit, bon, quelle est votre position personnelle par rapport à ce que l'on vous a expliqué? Donc, tout le bilan humain, tout. Il a dit, bon, je fais valoir mon droit de réserve.
Ah bon?
C'est un fonctionnaire, hein, donc bon, pas...
Mais il a tout bien enregistré.
C'est vrai qu'il a pris beaucoup de notes. Notre entrevue, elle a duré une heure, bon, c'était ça, hein.
Oui.
Et bon, on était cinq, on s'était réparti un peu la parole pour avoir différents sujets. On a même parlé de Georges Ibrahim, hein, parce que bon, c'était important.
C'est prévu qu'on en parle aujourd'hui.
Oui, on va revenir au sujet. Ouais.
Mais après, bon, je pense que les autorités, bon, nous, personnellement, à Saint-Gaudens, on n'a jamais eu de difficultés pour faire tous nos rassemblements. Ils sont déclarés, c'est Aude qui s'en occupe. On est devant la sous-préfecture, donc on ne passe pas inaperçu. Il y a un véhicule de police qui est là tous les mercredis à 5h30.
Devant la préfecture.
Il y a un cérémonial. Bon, mais après, au niveau des États ou des chefs politiques, c'est toujours une espèce de jeu géopolitique entre un bloc, les États-Unis,
Israël,
et puis un bloc occidental. Parce qu'après, bon, dans les autres pays, dans les pays du sud global ou des choses comme ça, il y a des manifestations énormes. Bon, il y a un relais chez certains chefs d'État. Mais ici, en France, je pense qu'on est tenu par... Il y a une espèce d'omerta qui est sur l'emploi de ces mots, génocide. De toute façon, on a toujours entendu que tout a commencé le 7 octobre.
Ouais.
Donc, si on part de là, effectivement, on ne peut pas cautionner quoi que ce soit. Mais si on fait l'effort de s'informer et d'écouter ceux qui ont l'information, il n'y a aucun problème. Bon, on voit très bien que c'est l'aboutissement ou un aboutissement d'un processus qui est engagé depuis 1948. En 1948, il y a 700 000 Palestiniens qui sont tués. Ouais. Il y a des villages, c'est énormément de villages qui sont détruits au moment de la Nakba. Après, bon...
Personne n'en parlait avant le 7 octobre, ouais.
Voilà.
Malheureusement.
Après, il y a par rapport aux puissances européennes, il y a sûrement le souvenir de la Shoah, ce qui s'est passé pendant la guerre. Ouais. Et je pense que Aude l'a...
Oui, si j'ai un petit peu
de temps.
Oui, par rapport à nos dirigeants et par rapport à la France. Et voilà.
La position de la France.
Et la position de la France. Je m'exprime en mon nom propre. Enfin, je ne m'exprime pas au nom du collectif, là. Mmh. Je tiens à le préciser parce que toutes les organisations ne sont pas forcément,
d'accord,
pas forcément la même vision.
Je rappelle que vous représentez l'Union juive française pour la paix.
Voilà, qui est une association de juifs et non-juifs antisionistes. Mmh. Par rapport à la France, il y a déjà le fait que nous sommes, je vais dire, ancienne puissance coloniale. Et il ne faut pas oublier que la Palestine est la dernière colonie du monde. Donc, on est déjà coincé par cet aspect-là. J'ai dit ancienne puissance coloniale, mais il ne faut pas oublier que nous sommes toujours une puissance néocoloniale, enfin, en Afrique, etc. Et doublé du fait que nous sommes rangés dans le camp occidental, aux côtés des États-Unis, qui, eux, ont des intérêts puissants au Moyen-Orient. Voilà. Maintenant, après, comment on nous fait passer ça? C'est encore plus prégnant en Allemagne, que je connais bien, mais en France aussi. Nous avons une double mauvaise conscience. La mauvaise conscience coloniale, qui n'est pas toujours une mauvaise conscience. Certains l'assument totalement, en disant que la colonisation, c'était formidable, qu'on a apporté plein de choses. Mais il y a quand même une partie de la population qui sait ce qui s'est passé en Algérie, par exemple. Et puis, il y a la mauvaise conscience par rapport au judéocide. C'est-à-dire par rapport à
la Shoah.
Oui, ce qu'on appelle la Shoah. Moi, j'utilise plutôt le terme judéocide.
La Shoah, ça veut dire quoi exactement, en fait?
Ça se traduit? Oui, ça se traduit. C'est un terme biblique qui n'était pas utilisé au sortir de la guerre, qui a été utilisé après. Si je ne l'utilise pas, c'est parce que ça fait partie de l'instrumentalisation du judéocide par Israël pour faire passer certaines choses, alors qu'il faut savoir que les dirigeants israéliens, depuis le début, ont plutôt tourné le dos à cet épisode horrible de l'histoire. Je me rappelle d'un ami, Michel Warshavsky, israélien, fils du grand rabbin de Strasbourg, qui ont migré en Israël, et qui nous racontait ses débuts en Israël, en 48. Et où les gens comme lui, dont la famille avait été exterminée à Auschwitz, étaient traités par la classe dirigeante d'Israël de, c'est horrible, Savonnette. Savonnette, vous vous êtes laissé transformer en savon dans les camps. Vous êtes des faibles.
Des lâches.
Des lâches. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle d'instrumentalisation, parce que ce qui est appelé Shoah en Israël, on n'en a pas parlé au départ. Et puis, il est venu un moment où s'est aperçu qu'on pouvait s'en servir. Voilà. Donc, nous, en tout cas, pauvres Français, nous sommes coincés entre la colonisation et notre mauvaise conscience, parce qu'on a fait partie de ce crime qu'est le judéocide. Mmh. Et donc ça, c'est utilisé par nos gouvernements pour contrer le soutien aux Palestiniens, qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais en nous traitant d'antisémites, en fait. Ouais. On est contre le gouvernement israélien, il y a eu la Shoah, donc si vous êtes contre Israël,
Ouais. Et alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur le terme antisémite, parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Lina. Si on traduit antisémite, Aude.
C'est les peuples sémites, donc les peuples qui vivent là-bas. L'arabe est une langue sémite.
Oui, tout à fait. Voilà. Tout peuple qui parle une langue sémite, y compris l'arabe, est un peuple sémite. Mmh. La plupart du Proche-Orient, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, ce sont des populations sémites. Et le mot sémite, ça devient du fils de Noah, Sam. Mmh. C'est à l'origine Cham, et aujourd'hui Damascus, ou bien le Damas, s'appelle en arabe Cham. Donc ce mot reste utilisé jusqu'à aujourd'hui, Cham, et on l'a transformé à un moment donné à Sam. Donc voilà.
Donc c'est encore un mot mal employé. Donc, enfin,
nous sommes des peuples sémites, malheureusement, mais c'est comme vous l'avez bien dit, ça a été instrumentalisé pour des fins politiques, tout à fait. Mais la position de la France, c'est désolant au niveau officiel.
Complètement, parce que... En plus, c'est un peu hypocrite, parce que la France se positionne plutôt pour la création de deux États.
Ouais.
On pourra en reparler parce qu'on est plus ou moins d'accord entre nous, mais voilà. Et d'un autre côté, alors création de deux États, c'est-à-dire un État palestinien, un État israélien, mais n'a pas franchi le pas pour autant de reconnaître l'État palestinien.
Ouais.
Alors que l'Espagne, par exemple, nos voisins, ils l'ont
fait.
Oui.
Mmh.
Voilà, donc une position complètement hypocrite qui montre bien que la France n'a nullement envie de s'investir dans la création même d'un État palestinien à côté de l'État israélien.
On doit contribuer d'ailleurs par rapport aux armes aussi.
Oui, Jean-Pierre, le micro, Jean-Pierre.
Jean-Pierre, en fait,
c'est pas l'habitude chez moi.
C'est pas seulement l'Espagne, il y a l'Irlande, la Norvège. Si on parle des pays européens, la France, peut-être pour certains, reste en recul un peu face à ces pays européens. Qu'est-ce qui l'empêche de reconnaître un État de Palestine comme les autres membres ou quelques membres de l'Union européenne? Est-ce que c'est toujours la pression mise par les États-Unis, peut-être
Ou comme l'expliquait notre histoire, tout simplement, aussi.
Si.
Oui, je pense qu'il y a une part de notre histoire, mais après... Il y a une absence totale de volonté
politique,
parce que je pense que créer un État palestinien aux côtés d'un État israélien, c'est priver Israël d'une partie de son grand Israël, voilà, auquel ils aspirent. Et je pense que les arguments qu'on a pu entendre politiquement, quand on dit on ne reconnaît pas, c'est le gouvernement français qui parle, quand on ne reconnaît pas l'État palestinien, parce que ce n'est pas le bon moment.
Mais
le bon moment, il est quand? Sachant que c'est un État qui se rétrécit au fil du temps. Mmh. On attend qu'il n'y en ait plus pour le reconnaître.
Ouais. Sachant, parce que peu de gens le savent, qu'Israël n'a pas fixé ses frontières.
Mais ça, ça reste pour la plupart peut-être incompréhensible, en fait. Pourquoi ? Pour laisser Israël s'agrandir ou prendre plus de terrain, de territoire, ou on a tous assisté à la à l'annonce horrible de Donald Trump de prendre le contrôle sur le Gaza et d'en faire une riviera, une station balnéaire. À quoi on s'attendra qu'Israël s'extende encore
Après, c'est toujours, je pense qu'il y a toujours cette histoire de, d'Occident et d'Israël qui est perçu comme le bastion avancé de la civilisation occidentale.
De la démocratie.
C'est ça.
Ouais. J'ai fait le geste. Hein.
Au sein du monde arabe. Donc, ouais. c'est la Oui, c'est vraiment le bras armé un peu de l'Occident. Finalement. Mm. Moi, je le vois comme ça. Ça, c'est perso. Hein. C'est, pas,
C'est névralgique, en fait. C'est ça. S'ils ont une position, là. Disons que. Moi, je dis toujours qu'Israël, c'est la 51e étoile, quoi.
Ouais.
C'est vraiment l'Amérique.
Après, bon, on a énormément. L'Union européenne.
Ouais.
Il y a énormément de.
Donc,
d'enjeux économiques. Il ne faut pas oublier ça, quand même,
voilà,
hein, aussi.
Ça.
Aujourd'hui, on est. L'économie, c'est quand même.
Économique et religieux, peut-être.
Non, économique avant tout, je pense.
Économique, d'ailleurs, parmi nos revendications, puisqu'on parle d'économie, parmi nos revendications, on a souhaité la dénonciation des accords UE-Israël, des accords économiques.
Ouais.
Comme dans les universités, Sciences Po, ils dénoncent les partenariats entre universités françaises et université
russe,
voilà, israélienne.
Ah, israélienne,
d'accord.
Oui.
Ouais. Hein? On a fait ça avec la Russie,
oui. Mais pas avec Israël.
D'accord, mais pas avec Israël.
Donc c'est après, je pense qu'on en parlera plus tard si on a le temps. Il y a l'histoire du boycott, parce que bon, si
BDS,
on en vient,
c'est
si
ça,
on en vient,
le mouvement BDS.
Voilà. Ouais. Si on parle d'économie, bon, c'est vrai que le levier que l'on a, bon, l'Europe a un levier, elle ne l'utilise pas. Les citoyens en ont un levier, c'est à eux à l'utiliser.
D'accord.
Donc après, on...
Mais ça, vous en parlez dans vos manifestations
de BDS.
Oui, oui. De boycott des investissements sanctions, oui, on en parle et on incite à y participer. Avant qu'on abandonne complètement le territoire, je voulais...
Ouais. On l'abandonne
possible,
pas. Hein.
Non, mais, faire un complément, parce qu'il y a des Palestiniens dont on n'a pas parlé. Il y a ceux qui sont dans les camps de réfugiés hors Israël-Palestine. Mais bon, voilà, Liban, etc., Jordanie. Et il y a aussi ce qu'on appelle les Palestiniens 48, c'est-à-dire les Palestiniens israéliens.
Ouais.
Ce que les Israéliens se refusent à nommer Palestiniens, mais qu'ils nomment Arabes.
Ouais. Arabes d'Israël,
voilà.
Qui détient toujours le passeport israélien et la nationalité israélienne.
Mais dans les discours européens, on parle d'Arabes israéliens, on ne parle jamais de Palestiniens israéliens.
Voilà. On les nomme Arabes de 48.
Voilà.
Oui.
Alors qu'eux se revendiquent Palestiniens de 48, c'est-à-dire ce sont les Palestiniens qui n'ont pas été chassés, le peu de Palestiniens qui n'ont pas été chassés, qui vivent toujours là où ils vivaient avant. Et quand on parle de situation d'apartheid, ça s'applique à eux aussi. C'est-à-dire que les Palestiniens israéliens, les Arabes israéliens, comme ils disent, ont beaucoup moins de droits que les Israéliens. Alors, on dit toujours, ils ont le droit de vote, donc c'est une démocratie. Soit, mais le droit de vote, en soi, c'est pas grand-chose. Quand on a la vie quotidienne, on n'a pas les mêmes droits que les autres, pas le droit au même métier, etc. Et je ne voudrais pas oublier, parmi ces Palestiniens de 48... ceux de Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, normalement, doit être la capitale du futur État palestinien, s'il existe un jour. Et puis également une population que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui sont complètement persécutées, ce sont les populations bédouines, donc qui étaient nomades, qui sont souvent sédentarisées maintenant et dont on détruit les villages qu'on a expulsés de la vallée du Jourdain, etc., etc., qui sont aussi... qui se considèrent comme des Palestiniens de 48. Voilà. Ouais.
Et ça, c'est une culture à part, enfin, qu'on veut supprimer ou...
On veut, oui. Je ne vais pas faire le parallèle avec les tziganes.
Oui.
Non, mais c'est une population, oui, qu'on n'arrive pas à bien appréhender, donc voilà, qui vivent de petits élevages, des fromages, etc., un peu d'artisanat, mais voilà.
Je vous propose une petite pause musicale, elle va être très courte, mais ça en rejoint l'actualité, puisque le festival Convivencia, dont son siège est situé à Ramonville, va accueillir pendant 6 mois un artiste de Gaza, palestinien, qui s'appelle Shamali. C'est un rappeur, compositeur, il est producteur de musique palestinienne également. Je vous propose d'écouter une de ses chansons. Alors, bien entendu, chantée en arabe. Peut-être que Lina, si tu arrives à comprendre, tu pourras nous traduire.
Oui, si j'arrive à comprendre, parce que c'est du rap.
Et puis, c'est un artiste engagé, fait qu'il parle de la vie au quotidien.
بس اوف حكيت لك بدها تزبط طلع له فجاه ينقص بوز بنعرف نروس حكيت لك كامل مش نص حقيقه عامل ماسكوس بس قطع معك وزي كلوب حكي بعد فستوك مساو نسيبه وشروط اخذت من لفي الجلوب وعلى مين الدور ابدا لعبه وعد السكور عيني علمو لمحتاج جيب مول شمالي شاطر وقت سدد الدور كل هدوه بنبدا تحكي لي شي فكره رن عليك بس تلزم خدتش منك ولا ركله حكي فكه بفكسله برد عليك وزي كريسماس بدنا نعيش عيش الدنيا عشان نشوف وين وصلت عد فلوس واصرفها عد فلوس واصرفها مش اغاني هادي قصة بدل فاكر بدل فاكر بدل فاكر مش اغاني هادي قصة
Alors, quelques précisions. C'est un programme qui s'appelle Sawa Sawa. C'est financé notamment par le consul général de France à Jérusalem. Et c'est aussi porté par l'association Convivencia, je vous l'ai dit, et en coopération avec l'Institut français de Jérusalem, antenne de Gaza.
Sawa Sawa, si on le traduit mot à mot, c'est-à-dire ensemble, ou bien tous ensemble. C'est le mot en arabe sawa. On dit on va dîner sawa, par exemple, on va dîner ensemble. Et pour la chanson, c'est difficile à comprendre parce que c'est du dialecte palestinien. C'est un peu proche du dialecte libanais, mais avec du rap.
Ouais, c'est compliqué.
En général, il s'adresse à un ami. Il parle de la difficulté. Du quotidien des Palestiniens et des aléas de la vie. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre.
J'ai envie de poser la question à nos invités. Alors, développé et financé par le consul général de France à Jérusalem, qui vise à permettre aux artistes palestiniens originaires de Gaza et résidents à Jérusalem ou en Cisjordanie de maintenir une activité créatrice. On marche sur la tête.
Hein. Non. C'est des restes de l'ancienne politique française, je dirais. Moi, quand je suis allée à Jérusalem, le consulat nous a toujours très bien reçus. Il savait très bien qu'on allait en Palestine. Les Israéliens ne le savaient pas, on le cachait soigneusement.
Pourquoi les Israéliens, vous cachiez
Ah bah si on disait qu'on allait en Palestine, on était, ce qui m'est arrivé au bout de 6 ans, repéré, mis sur liste noire et on n'avait plus le droit d'entrer en Israël, donc plus d'accès à la Palestine.
D'accord.
Voilà. Après interrogatoire, un petit tour casse-prison d'un jour s'il fallait, voilà.
Quel genre de questions dans l'interrogatoire?
Ah bah ce qu'on allait faire et puis des... soutien au terrorisme. Puisque pour les Israéliens, le droit à la résistance d'un peuple colonisé n'existe pas. Il est reconnu par l'ONU, mais on sait maintenant que l'ONU est antisémite. Donc...
Ouais. Et aujourd'hui...
Vous... Attends, je voudrais l'explication du consulat.
Oui, le consulat.
Pardon, pardon, Lina. Ouais.
Il fut un temps où la France... n'avait pas la même politique tout à fait. Bon, on n'était pas pro-palestinienne, mais il y avait quand même pas mal de choses qui se faisaient avec la Palestine. On se rappelle de Chirac qui avait.
Ah oui.
Qui s'était énervé. Voilà. Et la réception au consulat de Jérusalem. Alors, il y a deux consulats en fait. Il y a un consulat qui s'occupe des relations avec Israël et l'autre avec la Palestine. Et celui-là était tout à fait au courant de ce qui se passait en Palestine et nous disait clairement que oui, il y a des choses qui ne se passaient pas bien. Et je me rappelle qu'une année, il nous avait même offert la valise diplomatique pour rapatrier en France des documents parce qu'il n'était pas question qu'on les ait sur nous, sinon comme on se fait fouiller. On était repérés immédiatement. Donc on s'est servi de la valise diplomatique du consulat pour rapatrier des documents qui n'avaient rien de terroriste. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a des restes au niveau du consulat parce que la politique française a changé. Hein. La politique gaullienne a été abandonnée au niveau d'une relative indépendance des USA. Donc maintenant, ça... Mais il doit rester...
Oui, puisque
tant mieux pour ces artistes. Hein.
Quand notre fille travaillait à Naplouse, elle était chargée par le consulat d'apprendre le français aux Palestiniens. Donc il y avait toute une culture et des échanges qui étaient vraiment très forts. Et c'est vrai que c'était... En tant que Français, on était super bien accueillis. Parce que, bon, ils avaient un mémoire à faire avec Jacques Chirac.
Ah oui.
Ça, ça les avait marqués. Ils disaient « Ouais, Chirac
!» Ouais.
Et je pense que ce que disait Aude, c'est qu'on a ces restes-là. Quoi. Aujourd'hui, la politique internationale de la France, on va éviter d'en parler. Parce que...
Alors, j'ai une dernière question, Lina. Je reviens un peu dans l'histoire. On a évoqué le judéocide, c'est ça. Sans faire de parallèle, les survivants et les héritiers du judéocide de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui vivent toujours en Israël.
Bien sûr.
Moi, je me pose cette question. Quelle vision ils ont sur ce qui se passe à Gaza ou en Cisjordanie?
Ils n'ont pas de vision parce qu'on leur a inculqué la culture de les Arabes ne sont pas des êtres humains. Ça a été formalisé au niveau des dirigeants, puisque ça a été dit.
Quand on a un tel vécu, quand même, d'atrocité, de...
Je reviens à la création d'Israël. Israël a été créé sur la base des hommes forts. On le voit à travers des images d'archives, des affiches. J'en parlais l'autre fois. On a l'impression que certaines affiches ont l'impression de voir des affiches de réalisme soviétique. C'est-à-dire des hommes et des femmes beaux, grands, etc., costauds, qui viennent fleurir le désert. Et cette image du juif anéanti, ils le mettent derrière pour certains. C'est dans leur mémoire, mais d'une part, c'est des hommes faibles. Les hommes qui ont résisté, en plus, manque de bol, au ghetto de Varsovie, etc., souvent c'était des marxistes. Et ça ne va pas avec la société israélienne.
Ouais.
Et puis oui, on vient conquérir, on est des conquérants. Et ça s'est traduit aussi par la négation des langues. Tous ces juifs qui venaient d'Europe, je parle des Ashkénazes, donc ils parlaient yiddish et ils parlaient leur langue du pays d'où ils venaient, polonais, allemand, etc.
D'accord.
Et ils sont arrivés, on leur a dit, maintenant vous abandonnez cette langue. Tout le monde parle hébreu ici. Donc il y a une négation de la langue maternelle. Donc arrachage des racines. Donc voilà, c'est un petit peu schizophrénique. Hein. Faut dire, c'est pas facile d'être israélien, je pense.
Et on a besoin de ce genre de réponse pour essayer de comprendre totalement. Hein.
Ouais. Et puis il y a l'autre partie de la population, excusez-moi, les séfarades. Donc qui, eux, ne parlaient pas non plus hébreu, hein, parlaient leur langue, voilà. Ils se nomment souvent les juifs arabes.
Mais ils viennent d'Algérie, du Maroc,
voilà. Exactement, d'Irak aussi, etc. Et pareil, ils ont dû abandonner leur langue aussi au profit de l'hébreu. Ouais. C'est pas facile d'abandonner une langue.
Donc toute l'histoire, toute la rhétorique israélienne est basée, si on a bien compris, sur des fondements religieux, tout simplement. Même la géopolitique, la politique ou les pratiques contre les Palestiniens et les Arabes se sont basées sur des...
Pas vraiment religieux,
pas vraiment.
Non.
Non, pas vraiment. C'est plus complexe que ça.
Il y a déjà le problème de la terre.
Ouais.
Donc la terre...
C'est la terre promise pour...
Oui, mais la religion, elle vient comme un argument un peu fallacieux. Parce que finalement, Dieu n'a donné la terre à personne. Donc, surtout une terre, l'argument, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ouais. Bon, il y avait quand même du monde avant. Hein. Donc, ouais. On ne peut pas... On ne peut pas mettre un argument ou tenir compte d'un argument religieux. Pour moi, c'est
pour vous, peut-être, mais pour les Israéliens, ce n'est pas ça la réalité ou,
Je ne pense
non.
pas.
Non, les religieux, il y en a. Hein. Enfin, il y a des gens qui pratiquent la religion comme ça, hein, mais sans plus. Hein. Mais sinon, les groupes vraiment religieux, je disais tout à l'heure, il y en a une partie qui est antisioniste.
D'accord.
Donc ils ne sont pas pour un État d'Israël parce que il y a pas d'État dans leur.
Ils attendent le Messie toujours,
voilà,
vous disiez.
C'est ça. Et les fondements religieux, franchement, ils étaient inexistants au départ. On s'en est servi, mais c'est pas là-dessus que ça repose.
On revient à l'actualité. Là, on a évoqué les États-Unis.
Les États-Unis, la position, l'idée choquante de Donald Trump. Au début, on avait l'impression qu'il rigolait, mais c'était pas le cas, malheureusement. Il y a certains qui disent que cette idée de faire de la bande de Gaza une station balnéaire, un investissement immobilier entre guillemets, c'est une vraie menace pour la sécurité et l'instabilité de toute
la
région, en l'occurrence le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Alors ça n'a rien à voir avec aucune sorte de paix, ni juste ni durable. Qu'en pensez-vous?
Et je rajouterais le regard des populations arabes autour de cette situation et de l'action de Trump. Des pays arabes, hein, je parle.
Jean-Pierre?
Ben moi, je pense que c'est dans leur stratégie, disons, d'un grand Israël qui englobe toute cette région, et pour en faire une puissance à la fois économique, à la fois politique, et qui puisse, disons, avoir la mainmise sur toute la région.
Les États-Unis.
Les États-Unis en particulier, qui sont là, enfin, qui sont. Ils parrainent tout ça, de toute façon. Hein, bon. Et alors, je pense que c'est ça un petit peu l'idée. Donc, bien sûr, les peuples tout autour, ça, c'est. C'est sûr qu'ils peuvent craindre des...
Pour le moment,
ils ont été attaqués, ils sont affaiblis. Donc ça laisse... c'est assez difficile à entrevoir, hein, mais on peut quand même... la situation, c'est ça. En fait, vouloir annexer, c'est abject de dire un truc comme ça, mais enfin avec
de
Trump...
De déplacer par force populations...
Avec Trump, il faut s'attendre à tout, parce qu'il s'exprime...
Ça peut être réaliste ou faisable, cette idée, avec cette administration.
C'est un rapport de force, hein, c'est pareil. Mmh. Alors, bon, c'est toujours la même chose.
Parce que les pays voisins renoncent pour le moment à l'idée, les Égyptiens, les Jordaniens.
Oui, mais enfin, actuellement.
Ouais.
Cette idée qu'on nous présente comme trumpienne n'est pas une idée trumpienne. Déjà, il y a eu des plans. Des plans de nouvelles habitations qui ont été élaborés par Israël il y a plus d'un an maintenant. Donc Trump a repris l'idée avec tout le cynisme qui le caractérise, mais c'est une idée israélienne. Israël veut vider la bande de Gaza et Trump apporte son soutien. Quant à ce nettoyage ethnique, parce qu'il faut appeler ça par son nom, proposé par Trump. Alors, dans l'idée d'Israélien, au départ, ce n'était pas forcément vers l'Égypte ou vers la Jordanie, n'importe où du moment qu'ils partent.
Oui.
Voilà. Maintenant, l'Égypte et la Jordanie n'ont aucun intérêt à accueillir les Palestiniens. Du côté égyptien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des mouvements, des mouvements sociaux, des mouvements politiques. accueillir 1 million, 2 millions de Palestiniens ultra politisés, résistants. En Égypte, ça veut dire mettre en péril le régime, parce que les Palestiniens, ils ne vont pas être du côté du régime égyptien. Du côté jordanien, il y a beaucoup de réfugiés palestiniens, ça voudrait dire mettre en péril l'économique démographique. Donc ni la Jordanie ni l'Égypte n'ont intérêt à dire oui à Trump, même s'ils ont un intérêt économique, si on leur promet de les arroser encore plus. L'Égypte, l'économie va mal et est aidée par les finances américaines, mais je pense que ça serait un gros risque d'accepter. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'autres idées lumineuses.
Et hors de les pays du Golfe, ils ont leur mot à dire quand même. Ils ont quand même une puissance économique aussi.
Oui, alors l'Arabie Saoudite est du côté occidental, mais il y a un gouvernement et il y a une population. Et la population est pro-palestinienne. Donc, tant que la population de Gaza ne voudra pas partir, et ils ne veulent pas partir, parce que ça, c'est un point.
Ah oui, c'est ça.
Ils sont dans un état abominable, ils n'ont plus de maison, plus rien. Mais dans les témoignages qu'on a l'habitude de lire, parce qu'on a tenu depuis le début à lire des témoignages de gens de Gaza, on en a lu au dernier rassemblement hier, encore 3, de personnes qui témoignent du dénuement, etc. Mais à aucun moment il n'est dit qu'ils veulent partir. Au contraire, ils affirment de rester.
Rester et de reconstruire.
Et de reconstruire. Ce qu'on appelle le soumoud.
Le
soumoud.
Soumoud, c'est-à-dire la résilience.
Résistance,
mukawama. Résistance, soumoud, la résilience, c'est comme ça on le traduit en arabe.
Parce que c'est vrai que lorsqu'ils sont devant quelque chose de détruit, ils sont très prompts à reconstruire. En rien de temps, ils reconstruisent. Quand on a été dans le camp de Jenin, 2-3 jours après, il y avait déjà des bulles, enfin des tractopelles, parce qu'ils n'ont pas de bulldozer, ils avaient des tractopelles, ils reconstruisent. Voilà. Et ça, c'est caractéristique des Palestiniens.
Ouais. Et je vois ici sur les photos les bulldozers, ce dont vous parlez exactement, le camp des réfugiés de Jenin, des photos impressionnantes, mais des destructions totales dans toutes les zones. En fait.
Et c'était il y a 20 ans.
L'opération Rempart à l'époque.
Là, il y a le cimetière, il y a tous les...
Même les cimetières...
Patrick est en train de montrer les photos à Lina pour nos auditeurs.
C'est pas radiophonique.
Si on traduit, oui.
Mais après, c'est vrai qu'ils ont une capacité à rebondir face à l'adversité. Bon, c'est... nous, on est vraiment scotchés.
Ça peut se comprendre parce que c'est plusieurs générations qui vivent ça. Donc, ils ont une force terrible.
Et ils n'ont pas d'autre option, en fait, parce que c'est la seule option qu'ils
ont. Ils sont là, c'est à eux, ils restent là, et on détruit leur maison, et ils reconstruisent.
C'est terrible.
Pour revenir aux États-Unis, on sent quand même qu'il y a un petit éloignement entre les États-Unis de Trump et l'Europe. Est-ce que ça peut changer les mentalités dans les pays européens par rapport à cette situation palestinienne? Difficile question, peut-être.
Difficile. Je vois pas trop.
Pour l'heure, on ne sait pas trop, c'est tout récent.
Il faut être attentif. Ce qui se passe entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine, et la Russie.
Et la Russie, oui.
Il y a aussi donc, ce conflit. Donc je pense que la rivalité entre l'Europe et les États-Unis porte plus sur le conflit russo-ukrainien que sur ce qui se passe
en Palestine.
L'idée de Trump de construire une rivière à Gaza, tout le monde l'a dénoncé quand même.
Oui.
Le dénoncer, oui. Après, le prendre au sérieux aussi. Moi, j'ai qu'une crainte, c'est qu'il arrive à faire quelque chose là, à Gaza. Mais c'est la Cisjordanie et Jérusalem. Jérusalem-Est, parce qu'après, là, ça fait un peu un projet un peu fantasque. Mais le projet réel, c'est faire évacuer tous les Palestiniens. y compris ceux qui sont en Cisjordanie et à Jérusalem.
Il avait démarré, de toute façon, dans sa première présidentielle en déplaçant l'ambassade. Hein.
Mais là, l'idée d'annexion de la Cisjordanie est à l'agenda. Trump a dit à Netanyahou que l'administration américaine rendrait sa décision quant à l'annexion de la Cisjordanie dans les semaines à venir.
Tout à fait.
Donc, on n'est pas face à une perspective de paix sur le moyen ou le long terme.
C'est difficile à dire parce qu'on est dans une période de bouleversement total, il faut bien le dire. Il y a un basculement à l'échelle mondiale,
ouais.
Sur plusieurs points, évidemment, en Europe avec l'Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient. Et
aussi en
moi,
Asie.
Je crois que là, avoir une vision sur la suite...
On peut être un peu pessimiste parce que quand il y a eu la première annexion de la Crimée ou du Donbass par la Russie, on n'a pas trop bougé non plus.
Non.
Alors, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, j'ai lu un article en fait pour écrit par une chercheuse suédoise qui s'appelle Anne Lenstein, si je me trompe pas. Elle a fait un travail remarquable en Palestine, en Israël. Elle a pu y rester une dizaine d'années à recueillir des informations, à observer, à échanger avec les gens sur la paix, sur leur vision, leur espoir, leur perspective de la paix. Ce qui m'a frappé, dit-elle, alors que ces gens travaillent pour la paix, mais prononcent très très rarement le mot paix en lui-même, comme s'ils en avaient peur, si cela devait de plus en plus illusoire, irréaliste. Est-ce que vous avez des contacts avec des mouvements pacifistes gauche, peut-être en Palestine ou en Israël, qui témoignent de ça
directement? Ben, on a déjà les relations que tu as, toi, mais autrement, par rapport à ce qui se passe ailleurs, on ne sait pas trop s'il y a, sur le plan national, je ne sais pas.
Oui, donc il y a des relations avec les mouvements israéliens. Difficile de parler des mouvements pour la paix en Israël.
Mais ils existent ou pas?
C'est tout à fait ce qu'elle dit, cette chercheuse. La gauche israélienne, en général, n'existe plus.
Voilà.
Et les mouvements pacifistes sont en recul de plus en plus. Et elle a une justification à ça, parce que le gouvernement israélien a lancé depuis un moment comme des campagnes pour ternir l'image de ces mouvements, des mouvements pacifistes, et
totalement.
Malheureusement il a réussi. L'opinion publique israélienne maintenant dénonce à toute idée de paix. Voilà.
D'où la fuite de certains, d'Israël. Il y a des Israéliens anticolonialistes ou des Israéliens pour la paix, mais vraiment, qui sont en train de partir en ce moment parce qu'ils ne peuvent plus lutter sur place.
Mm-hmm.
Alors, donc, bon.
Il y a un nettoyage, je ne sais pas comment on peut dire.
Et pour revenir à votre groupe Comminjoie, ce groupe qui rassemble beaucoup de structures, d'associations, enfin, vous êtes nombreux, non? Vous êtes combien?
19.
18 organisations.
Ouais.
Je vais laisser peut-être Jean-Pierre en parler.
Oui, on est 18 organisations, des associations, des syndicats, des partis politiques, des mouvements. Et donc, on se réunit devant la sous-préfecture toutes les semaines à 17h30 le mercredi, d'une façon fidèle. Hein, on est, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est la 64e, là. Et sinon, on a aussi tous les volontaires qui le veulent participent après ces manifestations devant la sous-préfecture. On se réunit pour étudier les formes d'action, on analyse un petit peu tout ce qu'on fait, on fait des projections.
Vous créez des événements ?
On crée les événements, etc.
Mmh.
Hein ? Donc tout ça, c'est intéressant. Et puis, on a fait des distributions de tracts, des collages d'affiches. Hein, on a aussi toutes nos équipes de concepteurs en la matière. Et puis donc, voilà, on agit, on cherche un peu toutes les formes aussi. Hein, on est un petit peu... Enfin, on voudrait encore faire plus pour que le mouvement soit encore amplifié et tout.
Mais après une émission sur Radio Couteau, enfin deux émissions déjà.
Ah oui, oui. Là, ça va y continuer.
Ça va s'amplifier.
Et on ne dit jamais 203.
Non, mais jamais complètement, 203. Vous avez raison. Alors, j'aurais dû vous poser la question au début de l'émission. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre parcours personnel? Est-ce que vous avez un engagement qui dure depuis longtemps?
Je veux bien parler. Je veux bien parler parce que moi je suis un vieux militant, j'ai 84 ans, c'est pour vous dire.
Donc, il ne les fait pas, hein?
Je ne les fais pas, oui, tout le monde me le dit. C'est autre chose, c'est un autre problème, c'est une autre émission. Alors donc, non, mais j'ai milité très tôt au Parti communiste, aux jeunesses communistes, au Parti communiste, où j'ai adhéré en 1956, au Parti en 1958. Je me suis battu, bien entendu, contre la guerre d'Indochine. J'étais dans cette période où ils avaient exécuté les Rosenberg aux États-Unis. Ça m'avait choqué, ça m'avait fait un électrochoc complet, ce truc. Et donc, ça m'a poussé aussi à militer beaucoup plus. Donc, j'ai milité énormément dans ma vie. Et dans une petite ville d'Eure-et-Loire, au sud, à Châteaudun. Et donc, je participais à toutes ces actions. On a, pour l'Indochine, après le Vietnam, la guerre du Vietnam. Donc, y compris par des pétitions, un comité de soutien, la campagne pour les bicyclettes, pour qu'on envoyait là-bas. Et tout, on était à l'ambassade américaine, porter les signatures. On a fait plein de choses comme ça. Et puis, il y a eu la guerre d'Algérie, bien entendu. Hein. Alors, la guerre d'Algérie, moi, c'était ma période. Donc, je voyais les copains partir, tout ça. Moi, pour des raisons de santé, j'étais pas parti. Mais enfin, bon, on se battait localement pour arriver à envoyer des lettres, des petits chèques, des trucs, tout ça. On peut organiser plein de choses. Donc, j'ai baigné là-dedans, ce qui m'a valu d'être élu conseiller municipal très jeune, puisque j'avais 24 ans à l'époque, dans ma commune. Et c'était par vote préférentiel, donc autant vous dire.
Bravo!
Voilà, il fallait que je me décortique. Hein. Mais enfin, bon, c'était tellement naturel. Puis j'étais dans une famille, mon père avait été résistant. Ma maman, c'était une femme qui s'occupait aussi. Bon, elle était à l'Union des femmes françaises, elle organisait plein de choses pour les anciens, pour les gamins, pour tout ça. Donc moi, j'ai baigné là-dedans. Hein. Alors, comme disait Picasso, je suis venu au Parti communiste, comment va La Fontaine? Mais moi, je ne peux pas le dire parce que j'y étais dans La Fontaine. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà ce que je peux dire par rapport à moi. Puis après, j'ai continué, j'ai fait un mandat à Charles.
Non, mais c'est bien de le savoir. Voilà. Et vous, Ada?
Alors, moi, je suis entrée en politique, j'étais en seconde, et je suis entrée par l'international, puisque c'était au moment du coup d'État au Chili.
Ah, Allende.
Voilà. Ouais. Et puis, la chute d'Allende. Mm-hmm. Et donc, de fil en aiguille, j'ai continué à militer. Mais effectivement, les deux créneaux, c'est surtout l'international et les sans-papiers. Mm-hmm. Voilà, donc je me suis...
Et vos études, c'était concentré sur la politique aussi?
Ah non, moi j'étais professeur de maths.
Ah, j'allais dire que vous étiez. Moi j'allais dire qu'elle était professeure, hein, franchement. Hein. C'est incroyable. Hein.
Bravo. Ouais, mais habituellement on ne dit pas maths.
Ouais. Ah, plutôt lettres.
Et vous, Patrick?
Moi, bon, j'ai milité au lycée de Saint-Gaudens. Bon, je suis vraiment d'ici, j'ai pas fait beaucoup de chemin. Donc...
Un militant comme un joueur.
Ouais. Local.
Très local. Après, lorsque j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai beaucoup milité. À l'époque, Franco était encore dictateur. C'était à l'époque où il y avait les prisonniers basques, les deux derniers prisonniers basques qui ont été tués. Ils ont été garrottés. Et c'était cette époque-là. Et donc, depuis, après, il y a eu la Palestine, après, il y a l'investissement politique, puisque... Bon.
Donc, vous étiez plutôt à gauche.
Je crois que... On va pas se mentir.
Oui, on va dire oui. Bah.
Est-ce que vous ressentez que toutes ces mobilisations, tous ces efforts portent des fruits?
Alors... Premièrement, ils portent leurs fruits auprès de la population palestinienne. Les retours que j'ai d'amis palestiniens et de Gaza disent qu'ils accordent énormément d'importance au niveau du moral à ce qu'on fait, à toute échelle, même à petite échelle. Ziad Medouk, donc, qui a perdu sa maison, qui a perdu son frère, etc., nous remercie à chaque fois de la solidarité, ils nous appellent les solidaires. Donc, bon. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Après, bon, on ne va pas se mentir, au niveau de la politique menée par nos gouvernements, c'est petit. Les fruits de BDS commencent à... Enfin, BDS commence à porter ses fruits dans pas mal de pays. En ce moment, ici, on a une campagne contre Carrefour, qui est une entreprise française et qui a notamment des magasins dans les colonies et puis qui a offert des rations, des repas aux valeureux soldats israéliens à Gaza. Mais ces campagnes de boycott commencent à porter leurs fruits et puis font évoluer la mentalité des gens. Ouais. De toute façon, ce qui s'est passé à Gaza, enfin, quand on a rencontré des gens sur les marchés, quand on a fait distribution de tracts, c'était surtout pour parler avec les gens. Enfin, moi, j'ai senti un changement dans la vision des choses. Les gens se sont rendus compte que ce qui se passait à Gaza était inadmissible et du coup, se sont intéressés à ce qui se passait. Voilà. Je répète, il y a quand même des avancées au niveau du boycott dans les pays arabes, notamment. Il y a des entreprises qui ont dû se retirer.
Ouais, la population, en général, toutes les populations, et je n'exagère pas si je dis toutes les populations arabes exercent ou font cet acte de boycott, ou 90%, disons, parce que le niveau populaire, ça n'a rien à voir avec le niveau officiel, gouvernemental, etc. Donc, même si l'Arabie Saoudite, par exemple, ou tous les pays du Golfe sont des alliés aux États-Unis et aux Israël, à Israël aussi, les Émirats Arabes Unis ont passé des accords de normalisation avec Israël il n'y a pas longtemps. La Jordanie, l'Égypte, ça fait très très longtemps. Mais au niveau de la population, ça reste un ennemi, entre guillemets. Israël reste le premier ennemi de la population arabe. Ouais.
Alors, malheureusement, il va falloir mettre un peu de terre. Mais on n'a pas évoqué une situation actuelle qui est très importante.
Le cas. Georges Abdallah, oui. et on a eu le verdict aujourd'hui. Oui. C'était mauvais, malheureusement. On attendait quelque chose de positif, de plus positif, mais il sera toujours incarcéré ici en France. Ça fait 41 ans, oui. Le plus vieux prisonnier d'Europe. Voilà.
Donc, et là, c'est le fait des États-Unis. Hein, là.
Oui. Mmh. Oui, pression des États-Unis. Oui.
Sur les juges français?
Alors, les juges ont fait preuve d'une indépendance puisque le 25 novembre, ils ont déclaré la libération de Georges Abdallah. C'est le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire du parquet, qui a fait appel. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur.
Sous pression des États-Unis. On est d'accord.
Ouais. D'accord. Et après, donc.
Mais il y a un appel ou. Ouais.
Enfin, j'ai écrit un petit.
Oui, Jean-Pierre, allez-y.
Voilà. Georges Ibrahim Abdallah est incarcéré à la prison de Lannemezan, emprisonnement qui dure depuis plus de 40 ans. Ce communiste libanais est le plus vieil incarcéré d'Europe, avec la complicité conjointe de la France, des USA et d'Israël. 10 tentatives de libération sollicitées n'ont pas abouti jusqu'au 15 novembre dernier, date à laquelle le tribunal d'application des peines a donné son feu vert pour sa libération. Mais le parquet national antiterroriste a fait appel de cette décision. Les USA, comme par le passé, font une pression directe pour empêcher qu'il recouvre sa liberté à 73 ans. Dans un document, ils indiquent « Libérer Georges Ibrahim Abdallah serait dangereux pour la région car il continue à contester l'occupation de sa patrie, le Liban ». C'est donc clairement une décision politique qu'a eu à trancher aujourd'hui, le 20 février, la Cour d'appel de Paris. À noter que le camp des réactionnaires, RN en tête, s'est mis en campagne pour empêcher sa libération. Malgré le cessez-le-feu, les colonialistes israéliens poursuivent leur agression et le massacre des innocents. Trump, dans sa brutalité coutumière, fait peser la menace d'un nettoyage ethnique affectant 2 millions de personnes. La lutte va continuer. La cour d'appel, qui devait donc se prononcer ce jeudi 20 février concernant la libération du militant libanais, vient de décider son maintien dans les geôles du pseudo-pays des droits de l'homme. Maître Jean-Louis Chaloncé, son avocat, vient en effet d'indiquer que la cour a reporté sa décision au 19 juin prochain. Motif, le condamné doit justifier de l'indemnisation réclamée par les parties civiles, ce à quoi Georges Ibrahim Abdallah s'est toujours refusé. Libérable depuis 25 ans, le 15 novembre, le tribunal d'application des peines lui aurait donné une lueur d'espoir en ordonnant sa remise en liberté avec expulsion immédiate au Liban. Qui le réclame, ainsi la décision prise est une honte pour l'État français. Une forme de sadisme politique et de collusion patente avec l'impérialisme américain, US. La lutte continue et doit s'amplifier. Et je vais ajouter, nous sommes submergés par la honte et la colère.
Voilà. Je crois que tout le monde partage ce texte.
Tout à fait.
Ouais.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'appellation le pseudo pays de droits de l'homme.
Ben oui. Hein.
Vous désignez la France.
Oui, oui.
D'accord. Et juste à souligner ici que deux députés LFI lui ont rendu visite récemment, oui. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, dont M. Éric Coquerel, qui a relaté « C'est un militant politique qui n'a jamais renié ses convictions. Il s'inquiète de la fascisation ». En cours de pas mal de démocratie, dont la nôtre. Mm. Donc,
ça, on s'en rend compte, tout le monde peut s'en rendre compte.
Oui,
absolument.
C'est dangereux quand même de parler.
Pour vos
auditeurs
qui ne le savent pas, juste un petit insert, Georges Abdallah est donc incarcéré à Lannemezan.
Oui.
Donc, tout près de
Toulouse.
De chez nous, voilà.
Oui. Mais cette crainte de que la société française soit fascisée, comment
je sais pas, qui est extrême droite,
ça peut arriver un jour.
Ça peut arriver très rapidement.
C'est pas qu'en France, hein.
Ça commence déjà, puisqu'il y a eu quand même, notamment les manifestations d'hier soir à Paris ont été interdites.
D'accord.
Par le préfet. Donc il y avait deux.
Patrick, avancez-vous un petit peu.
C'était le préfet Nunes qui a interdit les deux manifestations qui devaient avoir lieu à Paris dans le cadre de la libération de Georges Abdallah. Mais il y a un bon nombre de manifestations sur la Palestine qui ont été interdites.
Hein. Ouais.
Nous, on a cette chance de pouvoir faire fonctionner. Nous, ça marche, mais il y a des endroits. Toulouse, c'est pas évident. Hein.
Non.
Il y a quand même le groupe, c'est Palestine vaincra, qui est menacé de dissolution. Hein. Donc la fascisation, elle est là aussi. Hein. Le simple argument que lorsque nous on parle de la cause palestinienne, c'est de se faire, si c'est se faire traiter d'antisémite, c'est une dérive ça aussi, hein. Parce que bon, je pense que c'est un mot qui est maintenant galvaudé, on l'utilise pour couper court à toute discussion. Si on n'est pas d'accord tous les deux et que bon, je vous traite d'antisémite, mais automatiquement la discussion elle est terminée.
C'est pour cette raison que quelques députés ont demandé de changer la loi sur l'antisémitisme des députés LFI. Est-ce que vous craignez qu'un jour on vous accuse d'apologie du terrorisme, d'antisémite, peut-être?
Vous avez jamais fait d'apologie du terrorisme?
C'est fait.
Mais vous l'avez jamais fait.
Non, on n'a jamais fait d'apologie du terrorisme.
Pas pourquoi on les accuse de ça.
On rappelle simplement que le droit à la résistance, c'est un droit. Je sais bien que le droit international a tendance à être piétiné en ce moment, par notamment les USA, hein, qui se retirent progressivement des instances internationales. Mais le droit à la résistance d'un peuple colonisé est un droit reconnu par les instances internationales, sachant que droit à la résistance, c'est droit y compris armée, contre une armée, mmh. pas contre les civils, évidemment, et c'est en ce sens-là que le 7 octobre est à condamner dans sa partie civile, évidemment. Mais sinon, le droit à la résistance, y compris armée, est un droit... voilà. Donc, alors sinon, oui, si on dit ça, on peut se faire traiter par des gens qui connaissent mal le sens des mots. Quant à antisémitisme, tout le monde se fait traiter d'antisémite. De toute façon, si on ne se fait pas traiter d'antisémite, c'est un
manque.
Désormais, si une personne porte un symbole, un simple symbole palestinien, oui, le keffiyeh, le drapeau, la pastèque, tout à fait, elle est d'emblée accusée d'antisémite. Donc, c'est une dérive peut-être.
Alors, la dérive par rapport. Alors, je vais un petit peu déborder, mais la. Dérive vers, alors je ne vais pas appeler ça un fascisme, parce que le fascisme c'est une définition, les mots ont un sens,
oui.
Bon, vers une dérive autoritaire de la France après d'autres pays, hein, la Hongrie, enfin, on est entouré, oui. Voilà.
L'Italie
existe, elle existe en France bel et bien, et on ne sait pas vers où elle va nous embarquer.
Ouais. Bien, alors je suis désolé, mais on vous a donné quand même beaucoup de on a pris le temps de bien expliquer les choses.
Remercie.
Non, mais moi franchement aussi, c'est moi qui vous remercie à tous les trois. J'ai une vraie pensée pour Michel, parce que Michel aurait vraiment aimé d'être avec nous ici aujourd'hui, et donc on lui dédie cette émission si vous voulez bien.
Merci.
Aude, Jean-Pierre et Patrick, un grand merci. Lina.
Merci.
Bravo.
À toi. Merci à toi.
Quelle animatrice.
Merci à vous.
Merci à vous.
Moi je termine par dire que la lutte pour une cause humaine, comme la cause palestinienne, est plutôt une question de valeurs, de principes, d'éthique, que toute autre chose.
C'est de l'humanisme, simplement. À bientôt. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Coteau, la radio de tous les coteaux. Gascogne, Magnoac, Comminges et Ariège, 97.7, 104.5, www.radiocoteau.com.